Et donc, pour finir, justement, nous allons donner la parole à Michel Viviorca. Il était prévu qu'il intervienne à 5 heures, mais il va intervenir maintenant. C'est avec Michel que nous avons conçu cet ANR, avec Michel, Jean-Pierre, Sabrina, Sylvie Gangloff. J'espère qu'elle est toujours avec nous parce que je veux vraiment la remercier. Sans Sylvie, ce projet n'aurait jamais été obtenu le financement de l'Agence nationale de la recherche parce qu'elle sait très bien faire les répondre aux appels d'offres. Sans elle, nous ne serions pas là aujourd'hui. Quelqu'un a dit tout à l'heure que le but, l'ANR est une pièce d'un dispositif plus large qui était conçu à la fondation de la Maison des sciences de l'homme et sous la direction de Michel Viviorca. Et c'est à lui que c'est vers lui que je me retourne maintenant pour qu'il nous fasse une conclusion, une synthèse conclusive. Et je lui demande à lui aussi d'être court, mais il le sera. Et je renvoie à son texte publié récemment et qui est sur le blog le blog du site de l'ANR, où il y a beaucoup d'autres références et d'autres articles qui complètent ce que vous avez entendu ces jours-ci.
Mais bonjour à tous. Depuis Fontaine de Vaucluse, il y a pire comme confinement en Provence. Ce n'est pas une conclusion que je vais faire, même si je vais mettre en avant quelques idées. C'est plutôt des remerciements à tous ceux qui ont participé à ce superbe programme de recherche, à commencer par Yvon Lebotte, mais il vient de le dire, c'est une aventure collective. Je peux préciser qu'il est né en 2015, nous étions quelques-uns. J'ai vu tout à l'heure que Jean-Pierre Dozon était parmi nous, j'ai entendu les noms de Sabrina, je vois Ernesto, enfin bref, je vois un certain nombre de nos amis, je ne vais pas faire des listes, mais c'est une grande joie pour moi de voir que 5 ans plus tard, cette plateforme internationale sur la violence et la sortie de la violence, eh bien, elle a donné de nombreux fruits, et ce n'est pas fini, des colloques dans plusieurs pays du monde, des groupes de travail internationaux, pluridisciplinaires, des séminaires, des publications, une nouvelle revue, je crois que vous en avez parlé hier, coéditée entre la FMSH et la maison d'édition globale, mondiale, SAGE, Violence, an International Journal, que je dirige avec Scott Strauss. Et puis aujourd'hui, donc, ce colloque qui s'achève sous la direction d'Yvon Lebotte, qui a vraiment conçu et dirigé toute cette affaire de main de maître. Donc, je voudrais donc remercier d'abord Yvon pour tout ce chemin parcouru et avec l'idée que c'est peut-être pas forcément terminé. Alors, quelques remarques d'abord sur la violence. Je vais faire deux, trois remarques sur la violence et deux, trois remarques sur le thème de la sortie de la violence. C'est ça le mouvement que je voudrais suivre maintenant. En notant d'abord tout de suite que la violence, on ne sait pas toujours très bien la définir. Nous savons tous ce que c'est. Mais s'il s'agissait pour chacun de nous de donner une définition, nous avons toujours quelques difficultés. Alors, si on a de la peine à définir notre objet, c'est peut-être difficile aussi de l'étudier. Un point me saute aux yeux depuis plusieurs années. C'est le suivant. C'est que depuis Hobbes, au moins, nous avions pris l'habitude de réfléchir à la violence en référence fondamentale à l'État. L'État qui permet d'éviter, de limiter, d'empêcher la violence, et chez Hobbes, tout simplement parce que, en quelque sorte, les individus en confient le monopole légitime à l'État. Et donc, sortir de la violence, c'était, pendant très longtemps, s'interroger sur les modalités qui permettent à l'État de faire valoir son monopole légitime. Mais on le sait tous ici, depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas dans une perspective occidentale, la sortie de la violence, je ne sais plus qui tout à l'heure a utilisé cette expression, ce n'est pas seulement la sortie, c'est aussi la prévention de la violence, c'est Bill, je crois, mais sortir et prévenir la violence depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est une thématique qui est loin de se limiter à la question de l'État, elle s'est élargie par le haut et par le bas. Par le haut, avec l'idée qu'il y a des droits humain supérieur aux États, d'où en particulier l'importance de la justice supranationale et des procès de Nuremberg, je ne reviens pas sur tout ceci, et par le bas, surtout à partir du moment où il s'est agi de prendre en considération les victimes et pas simplement l'ordre, les atteintes subies par les personnes dans leur intégrité et pas simplement l'État et les dommages que l'État pouvait subir et la légitimité qui pouvait être mise en cause. Donc ça, je crois que c'est un point très très important. Nous sommes obligés de changer de paradigme vis-à-vis de la violence parce que nous ne la ramenons pas fondamentalement à la question de l'État. Un deuxième point est plus historique et plus récent. Nous le savons tous aussi, le monde s'est transformé, il ne cesse de se transformer en profondeur, et nous sommes aujourd'hui orphelins d'au moins deux grands conflits, d'au moins deux grands clivages. L'un est social et traversé toutes sortes de pays, appelons ça la lutte des classes, j'y vais très vite, vous m'y permettrez, et l'autre est géopolitique, globale, mondiale, la guerre froide. Et donc, il me semble que c'est parce que nous voyons bien que nous sommes orphelins de ces conflits, entre autres choses, que nous voyons bien que le monde change, que nous pouvons introduire une idée que je crois très importante, que j'ai perçue ici et là dans des choses qui ont pu être dites, y compris cet après-midi, à savoir que l'espace de la violence est d'autant plus large que l'espace du conflit institutionnel, négociable, pouvant aboutir à des compromis, lui, se réduit. Quand les grands conflits s'en vont, tout se fragmente, tout se parcellise, et en même temps, l'espace de la violence est certainement beaucoup plus vaste. Je n'ai pas le temps de développer cette idée, mais elle est présente dans de si nombreux travaux auxquels beaucoup d'entre vous contribuez, que je crois qu'elle est intéressante. J'ajoute qu'il faudrait la nuancer, la discuter, mais enfin, dans l'ensemble, je crois que c'est tout à fait juste. Je crois aussi que les grands changements contemporains nous ont obligés à penser au moins certaines formes de violence, et pas forcément les plus spectaculaires, de manière globale, c'est-à-dire en refusant de dire il y a d'un côté la violence intérieure à un État-nation, et il y a d'un autre côté la violence internationale, la violence de la guerre. Non, aujourd'hui, bien des formes de violence, nous devons les penser comme globales, c'est-à-dire à la fois locales et planétaires. Et je dirais même parfois très locales, presque intimes. On ne peut plus séparer complètement le dedans et le dehors des États-nations quand on réfléchit à la violence. Et enfin, on s'aperçoit aussi que dans ces changements, ce qui était violence politique ou violence politique et sociale classiquement se transforme pour devenir métapolitique et infrapolitique. C'est un jargon que j'utilise depuis plusieurs années. C'est-à-dire, métapolitique, c'est la religion qui était quand même bien peu présente avant les années 80. Et c'est, alors qu'elle avait dominé évidemment des siècles et des siècles de notre histoire. Et c'est infrapolitique, au sens où ce qui est politique se lie de mille et une façons avec des crimes, le crime organisé, la drogue, les trafics en tout genre, enfin bref, autre chose que la politique. Bref, je ne vais pas être trop long, mais tout ce dont nous parlons nous oblige à renouveler nos analyses de la violence. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans certains textes que j'ai pu lire, qui nous ont été remis, juste en tout cas à moi, juste en amont de ce colloque, c'est vraiment le refus d'accepter un déterminisme simple. Il n'y a pas une cause unique, il n'y a pas une causalité élémentaire. On n'est plus du tout dans ce mode de réflexion. Et je dirais un certain souci théorique. Je pense qu'on n'en a pas encore assez, qu'il faut continuer, que nous devons tous continuer à avoir le souci de la théorie. Mais enfin, quand même, rien que le fait de, quand on examine une question, de faire le point sur les modes d'approche disponibles, non pas pour dire le mien est supérieur à tous les autres, mais pour dire voilà ce qui est intéressant et voilà ce qu'apporte tel ou tel mode d'approche. Rien que ça, c'est très, très positif. Et ce que je trouve formidable, et c'est pour ça que je suis si reconnaissant envers Yvon, c'est que oui, nous avons chacun, comment dirais-je, des objets précis, limités, on étudie une question ou une autre, mais nous sommes capables d'avoir des discussions générales. Nous sommes capables, nous nous retrouvons tous ensemble et nous savons très, très bien que c'est important pour nous. Nous pouvons monter en généralité sans perdre pied avec tel terrain en Colombie ou à tel autre endroit, je reprends les discussions d'il y a ou au Chili ou autre. Donc vraiment, je crois que c'est très très important dans une phase où les sciences sociales se parcellisent, où chacun est dans sa spécialité, dans son travail très limité, que nous ayons su construire un lieu comme celui-ci où on peut articuler des connaissances ponctuelles et des réflexions plus larges, des discussions plus larges, c'est vraiment tout à fait important. Je voudrais aussi insister sur un point qui est peut-être beaucoup plus valable dans certains pays que dans d'autres, et en particulier en France. En France, on a vécu une drôle d'expérience dans notre rapport à la violence. Jusque dans les années 70, vous me permettrez de simplifier, mais jusque dans les années 70, il pouvait y avoir une certaine légitimité de la violence politique ou sociale. On adorait la révolution, on adorait le Che, on adorait la guérilla, il y avait de la compréhension pour beaucoup de choses, et brusquement, en quelques années, à partir de la fin des années 70, la violence est devenue taboue. Elle a été rejetée presque partout, on ne voulait plus en entendre parler. De manière positive. Ce qui a eu des effets très importants, ou qui étaient liés à des choses très importantes, des formes de violence dont on ne parlait pas beaucoup jusque-là, se sont imposées parce que les institutions ne pouvaient plus les masquer. La famille ne pouvait plus masquer les violences conjugales, moins qu'avant en tout cas. L'Église ne pouvait plus masquer la pédophilie. L'école publique ne pouvait plus masquer la pédophilie ou un certain nombre d'abus. Bref, les policiers ne pouvaient plus faire comme si, quand une femme venait se plaindre d'un viol, c'était sans importance. Autrement dit, les institutions ont été obligées de s'ouvrir à la connaissance de la violence. Et c'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui un peu en France aujourd'hui avec la police, mais je ne vais pas faire quelque chose de trop actuel. Et donc, je pense que la violence a changé, elle aussi, et pas seulement donc, notre rapport à la violence. Alors, une fois qu'on a dit ça, je pense que tout ceci nous invite à donner beaucoup de place, peut-être qu'il ne faut pas en donner trop, il faut être prudent là-dessus, mais à beaucoup de place, à tout ce qui est la subjectivité, aussi bien des acteurs de la violence que des victimes de la violence. Et je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Mais pour éviter de déraper vers une sorte d'essentialisation d'une notion de sujet, je pense qu'on a intérêt à étudier des processus de subjectivation et des processus de désubjectivation. Ce qui ne règle pas complètement un point qui a été abordé hier et qui est central et qui est vraiment le point pour moi le plus compliqué, parce que qui demeure le plus mystérieux, qui est le problème du passage à l'acte. Je ne sais pas si Sabrina est encore là, mais enfin, elle a dirigé un dossier superbe sur ces questions, en anglais, Perpetrating Violence. Ce moment où le sujet, ou l'anti-sujet, comme on voudra, devient acteur, qui n'est pas forcément un moment précis, qui peut être un ensemble plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le passage à l'acte, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la réflexion à partir du moment où on s'intéresse à la conscience des acteurs, à partir du moment où on s'intéresse à leur subjectivité. Et là, je crois que le sens et le non-sens et la perte de sens, la réinvention d'un sens, toutes ces choses, si j'avais le vocabulaire de Farhad Khosrokavar, je le dirais beaucoup mieux parce qu'il a tout un vocabulaire pour parler de ces choses-là. Vraiment, ce sont des choses très, très importantes. Mais je voudrais prendre encore 5 minutes, si Yvon m'autorise, pour dire quelques mots de la sortie de la violence. Nous n'avons pas encore été assez loin. Je le dis, je me mets en première ligne pour me faire ce reproche à moi. Nous n'avons pas encore été assez loin s'il s'agit de faire de la prévention et de la sortie de la violence un véritable domaine de recherche. Quelques remarques là-dessus. D'abord, il n'y a pas de symétrie. Ce n'est pas en étudiant la violence qu'on peut comprendre la sortie de la violence. Ce sont des problèmes qui, évidemment, ont beaucoup de choses en commun, mais ce n'est pas le même type de recherche qu'il faut faire sur l'une ou sur l'autre. Ce ne sont pas les mêmes catégories, ce ne sont pas les mêmes paradigmes qui peuvent directement, en tout cas, nous aider à bien analyser la sortie de la violence. Deuxièmement, on en a eu quelques illustrations ici et là dans ce que j'ai entendu. Nous savons bien que le savoir, il n'est pas tellement dans les sciences sociales, il n'est pas tellement dans nos disciplines sur la sortie de la violence. Il est beaucoup plus, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il est beaucoup plus chez des acteurs, chez des ONG. On a entendu parler tout à l'heure par notre ami Guy Chawa ou par Yvon. Il est chez des consultants, il est chez des professionnels, il est chez des spécialistes du nation building, du conflict resolution, etc. Ce sont des gens souvent merveilleux, donc ne prenez pas du tout de façon négative ce que je veux dire. Je serais assez radical. Je pense que, bien sûr, il faut travailler avec tous ces acteurs en tant que chercheur, mais qu'il faut aussi prendre tout cet ensemble d'acteurs comme objet d'analyse. mais non pas en le traitant comme on regarderait des sauvages ou des fourmis, bien entendu, mais en travaillant avec eux, en coproduisant des connaissances, mais en se mettant en position de les analyser et d'analyser leur action pour élever leur capacité d'analyse et élever de là leur capacité d'action. Mais je ne crois que nous devons marquer une distance plus grande entre l'univers de la recherche en sciences sociales et l'univers de l'action humanitaire ou autre concernée par la violence. Ce sont des univers qui se chevauchent, qui se ressemblent souvent, mais donc on a intérêt aussi à marquer qu'ils ne sont pas exactement les mêmes. Alors, je voudrais faire encore deux, trois remarques sur ces questions sorties de la violence. De la même façon que sur la violence, nous savons maintenant vraiment aller très très loin dans le refus des déterminismes, dans les efforts pour théoriser tout en connaissant concrètement les faits. Il faut faire la même chose avec la sortie de la violence. C'est un domaine délicat, c'est un domaine où il n'est pas facile d'entrer, ou pas toujours facile. C'est un domaine aussi où les choses sont très fragiles. Je suis toujours impressionné de voir à quel point on peut mettre des années et des années à construire un processus de sortie de la violence, de fin de la violence en tout cas, de paix, de construction de la paix, et puis en quelques semaines, quelques mois, ou parfois même moins encore, tout peut être ruiné. Les efforts pour aboutir à Oslo dans l'affaire israélo-palestinienne, puis la suite, ont été fichus en l'air en quelques mois par un climat dans lequel Netanyahou avait une assez grande importance, les sionistes messianiques, ces gens-là, et puis finalement l'assassinat de Begin. Et je dirais même, sans être un expert sur la Colombie, je pense que la décision de l'expatriation de trafiquants de drogue et quelques événements comme ça, enfin, les choses ont pu basculer assez vite, je pense, alors qu'il y avait eu un tel travail de préparation. On pourrait prendre aussi le cas des révolutions arabes. Là aussi, ça bascule très très vite et on tombe dans le chaos syrien et il n'y a que la Tunisie qui s'en sort pas trop mal. Donc, je crois vraiment qu'il faut avoir en tête l'idée qu'autant les processus de violence ont une force, une puissance parfois inouïe, autant les processus de sortie de la violence sont fragiles, souvent éphémères, très délicat à mettre en œuvre. Je voudrais ajouter que la sortie ou la prévention de la violence, ce n'est pas la fin de la violence concrète. Il dit faux, évidemment, la fin de la violence concrète. Mais on sait très bien qu'après une expérience de violence forte, les choses ne sont pas forcément réglées. D'abord, on n'est pas certain que c'est vraiment fini. Ensuite, les blessures sont toujours là. Et il faut donc comprendre comment les individus, les groupes, les sociétés tout entières peuvent s'en sortir. Et là, il y a plusieurs chemins qui sont envisagés. Certains disent qu'il faut oublier. Je crois que c'est en Uruguay qu'il y a eu un référendum pour nous demander si on voulait oublier ou pas. Avec les gens, on veut oublier, ce qui m'a beaucoup surpris d'ailleurs. D'autres disent qu'il ne faut pas oublier et s'enferment dans une sorte de mélancolie. On ne pense qu'à ça. Ce n'est pas forcément une bonne réponse. Mais je vais utiliser encore une catégorie psychanalytique. Le deuil est certainement la bonne réponse, mais ce n'est pas facile, le deuil. Et ça ne se commande pas. Mais en tout cas, être capable de ne pas oublier et se projeter vers l'avenir, c'est ça qu'il faut envisager. C'est des processus qui peuvent durer très longtemps. On ne sait pas non plus très très bien exactement de qui l'on parle lorsqu'on parle des victimes et lorsqu'on parle des coupables. D'abord, parce que certains ont pu être l'un et l'autre, qu'on ne sait pas toujours quand les choses ont commencé, et que surtout, on a affaire à des descendants de victimes, des descendants de coupables, qui, jusqu'à quel point les uns et les autres ont-ils des points de vue de victimes ou de descendants de coupables à faire valoir. Tout ça est très très compliqué, donc ce sont des choses, je parle devant des gens qui en savent beaucoup plus que moi, mais tout ça rend ces questions de sortie de la violence compliquées. Et puis je ne sais plus qui disait tout à l'heure, ça n'est jamais les passions continuent très longtemps. J'avais beaucoup aimé François Furet, qui avait, on peut ne pas être d'accord avec ses analyses, mais qui déclarait en 1989 la Révolution française est terminée, c'est-à-dire deux siècles après pratiquement, tout simplement parce que les passions, croyait-il, étaient retombées. Alors, je voulais dire ces choses-là, cela nous invite à étudier beaucoup de choses. Il faut étudier les négociations et les négociateurs, plus ou moins secrets, les médiateurs. il faut comparer l'impact de certaines modalités de sortie de la violence par rapport à d'autres. Est-ce que, comme on pourrait le penser spontanément, une paix durable apporte des résultats supérieurs à une victoire d'un camp sur un autre en ce qui concerne la fin de certaines violences? Ce sont des questions qu'il faut savoir aborder. Et puis, il faut aussi s'interroger, vous le faites tous, donc, sur quel rapport entretenir au passé. Moi, je pense que tant qu'on parle de mémoire, c'est que le passé n'est pas digéré. Le passé ne passe pas, comme disait un historien français, Henri Rousseau. C'est que le jour où le passé est devenu vraiment mémoire, s'il le devient un jour, que la mémoire devient presque inutile, d'une certaine façon. C'est l'histoire qui compte. Mais ce sont des discussions qui restent ouvertes. Nous devrions, par exemple, être capables de beaucoup plus analyser tout ce qui se passe actuellement dans le monde, où l'on crée un peu partout des mémoriaux pour les victimes du terrorisme, pour les victimes d'une horreur ou d'une autre. Nous devrions analyser ces choses-là. Ça fait partie du processus de sortie de la violence. Nous sommes plutôt sollicités pour aider à les construire, ce genre d'institutions. De la même façon, nous sommes sollicités pour aider à la justice transitionnelle. Ce devrait être des objets d'analyse pour nous, au moins autant que des lieux où nous exerçons notre intelligence et nos compétences. De la même façon, on s'interroge, et j'en ai presque fini, on s'interroge beaucoup aux conditions qui facilitent la violence. Eh bien, il faut faire la même chose. Quelles sont les conditions qui facilitent la prévention et la sortie de la violence? Et là, ça a été dit encore aujourd'hui, ça a été dit dans son introduction par Yvon Le Bot, l'introduction à cette rencontre. Je pense que parmi les conditions les plus importantes, c'est l'existence ou non dans la société, appelons-la civile, de mouvements démocratiques qui demandent la sortie de la violence. Les choses ne peuvent pas se faire uniquement de haut en bas, top-down. Elles se font ou elles ne s'en font pas selon qu'il y a des acteurs et que ces acteurs sont capables de se mobiliser durablement. Pas forcément des acteurs qui parlent en termes de non-violence, mais des acteurs qui demandent la démocratie et la justice. Et c'est très compliqué parce que ces acteurs, ils peuvent être sociaux, ils peuvent être purement politiques et pour la démocratie, ils peuvent être culturels, ils peuvent même être religieux. J'avais adoré dans les années 70 Adam Michnik, un des tout principaux contestataires polonais en lutte contre le régime soviétique qui régnait sur la Pologne. Et il avait dit le premier, nous autres qui sommes du côté de l'universel, du progrès, nous devons faire alliance avec l'Église réactionnaire, parce que c'est elle qui résiste le mieux au totalitarisme et elle n'est pas violente. Donc, la rencontre d'une Église non violente, mais très butée, je peux vous dire que le cardinal Wyszyński, pour ceux qui connaissent l'expérience polonaise, c'était la rencontre de ça avec des gens de progrès, a fabriqué Solidarność, c'est-à-dire un mouvement non violent. Et donc, la sortie ou la prévention de la violence, c'est quand il y a des forces, pas seulement politiques, des forces sociales, culturelles, religieuse éventuellement, vous voyez, bon. Mais, je termine là-dessus, les mêmes forces ou les mêmes acteurs peuvent mener au contraire. Je donne deux, trois exemples de choses totalement ambivalentes. On a parlé un peu de questions artistiques tout à l'heure. Bien sûr, la musique, ça peut accompagner, pour prendre la musique peut accompagner les plus belles choses, elle peut aussi accompagner les pires horreurs, ou être utilisée pour accompagner les pires horreurs. Les intellectuels peuvent tenir des superbes discours, comme nous tous ici, sur le refus de la violence, mais enfin, on en connaît tous, qui sont plutôt des propagandistes de la pire violence. La religion, écoutez, pas peine de faire un dessin, toutes les religions ont pu avoir un moment ou un autre leur part de promotion de la violence. Bref, rien, il n'y a pas de déterminisme, rien n'est acquis. Et c'était surtout ça que je voulais vous dire. Et il faut accepter donc de savoir que toutes ces questions nécessitent des travaux, de recherches. Avec ceci qui est malheureux pour nous, c'est que notre temporalité, je termine là-dessus, notre temporalité n'est pas celle de l'actualité. On a besoin de savoir si demain ou après-demain, on en finira avec l'islam radical, avec ceci, avec cela. Mais nous, pour pouvoir apporter la compréhension de comment se passe l'action pour sortir de ceci ou cela, il nous faut du temps. Ben, ça fait quand même 5 ans ou 4 ans que ce programme a été...
D'accord.
Voilà. Donc Yvon, toutes ces remarques, c'était... Bien sûr, tu n'es pas le seul qui mérite les remerciements, mais aujourd'hui, ils sont pour toi.
Nous sommes une cinquantaine à avoir travaillé d'arrache-pied dans ce programme. Et Ce n'est pas, c'est la fin du colloque, juste deux mots, c'est la fin du colloque, mais ce n'est même pas la fin du programme, puisque l'ANR, le contrat avec l'ANR se prolonge dans les mois qui viennent. Et nous aurons donc l'occasion de diffuser, en tout cas, de publier, de diffuser les résultats du projet. Et deuxième point, l'ANR, le projet est sauvé. Dans l'ANR, n'est qu'une, je l'ai dit, n'est qu'un dispositif de cette ambition de créer un champ, ce que tu viens très bien de décrire, un champ de recherche nouveau, ou en tout cas innovant, dans les sciences sociales sur cette question de sortir de la violence. Je commence à fatiguer moi-même, excusez-moi. Et je voudrais dire que beaucoup d'entre vous ont ouvert des pistes que nous allons continuer à explorer et lancer aussi des initiatives, des encouragements. J'étais particulièrement sensible à ce qu'on dit tout à l'heure, Jacques Semelin, André Guichaoua et William O'Neill, ils nous aident à penser que nous n'avons pas travaillé pour rien et que nous avons encore beaucoup à faire. Merci à tous, merci en particulier de nouveau au service technique de la FMSH, sans quoi cet exercice de colloque virtuel n'aurait pas été possible. À bientôt.